Féroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 16 novembre 2023. Le Congrès américain évite le shutdown après l'adoption d'une rallonge budgétaire. Joe Biden a rencontré hier le président chinois Xi Jinping dans un contexte de tension entre les deux puissances.
Pour deux grands pays comme la Chine et les États-Unis, tourner le dos à l'autre n'est pas une option. Il n'est pas réaliste pour une partie de remodeler l'autre.
Compte rendu de cette rencontre dans la partie magazine sur le continent à Madagascar, le collectif de 10 opposants a déclaré à la fermeture des bureaux de vote ne pas reconnaître ces élections au vu de la participation la plus basse de l'histoire du pays. Au Niger, le président de transition a intronisé les membres de la Cour d'État et de la Commission de lutte contre la corruption. Le Parlement kenya approuve le déploiement de policiers en Haïti. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. L'armée israélienne poursuit aujourd'hui son offensive contre le Hamas à Gaza avec la prise du port et reste déployée dans le plus grand hôpital où s'entassent des milliers de civils palestiniens malgré les critiques et les appels de l'ONU à des pauses humanitaires prolongées. Selon Israël, le Hamas l'utilisait comme centre d'entraînement pour ses forces commando afin de planifier et exécuter des attaques terroristes navales. L'armée israélienne a déjà pris le Parlement ainsi que les bâtiments du gouvernement et de la police militaire à Gaza, des immeubles vides selon le Hamas. Le chef de l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, Philippe Lazzarani, a déclaré aujourd'hui soupçonner une tentative délibérée d'asphyxier les activités de son agence dans la bande de Gaza. Il a ajouté que son agence pourrait suspendre ses activités dans l'enclave palestinienne faute de carburant. Ici aux États-Unis, le Congrès américain a approuvé hier une rallonge du budget de l'État fédéral dans une rare démonstration d'unité entre les partis, empêchant la paralysie de l'administration fédérale à l'approche de Thanksgiving et des fêtes de fin d'année. Jacques Aristide.
Après la Chambre américaine des représentants contrôlée par les Républicains, le Sénat, qui est lui aux mains des démocrates, a voté à une écrasante majorité de 87 voix contre 11 un accord visant à prolonger jusqu'à mi-janvier le budget qui devait expirer à minuit dans la nuit de vendredi à samedi. La rallonge ne tient pas compte d'une aide à Israël et à l'Ukraine, respectivement en guerre contre le Hamas et la Russie, de même qu'à Taïwan. Les démocrates voulaient une énorme enveloppe, mais finalement, chaque aide sera traitée séparément à la demande des républicains qui sont pour certains hésitants concernant l'aide militaire de 61 milliards de dollars à Kiev. Ils sont cependant les premiers à réclamer un appui massif à Israël et une attitude ferme face à Pékin. Pour Chuck Schumer, le chef de la majorité démocrate au Sénat, le projet est loin d'être parfait, mais atteint l'objectif d'éviter le shutdown. Les dissensions au Congrès sont telles que les élus sont actuellement incapables de voter des budgets d'un an, contrairement à ce que font la plupart des économies du monde. À la place, les États-Unis doivent se contenter d'une série de mini-budgets d'un ou de deux mois.
L'élu républicain de l'État de New York, George Santos, qui s'est illustré par ses mensonges répétés depuis son élection fin 2022, a gravement discrédité la Chambre des représentants, a conclu la commission d'éthique de l'institution. En conséquence, la commission d'éthique exhorte tous les collègues de George Santos à prendre toutes les mesures qu'il juge adéquates et nécessaires pour accomplir le mandat constitutionnel de la Chambre, lui imposant de réguler le comportement de ses membres, sans en recommander une en particulier. Elle indique qu'elle transmet au ministère de la Justice ses conclusions sur les faits pour lesquels il n'est pas poursuivi pénalement. L'Azerbaïdjan a refusé aujourd'hui de participer au pourparlers de normalisation avec l'Arménie prévue aux États-Unis courant en novembre, invoquant une position partielle de Washington. Les pourparlers de paix entre les deux ex-républiques soviétiques n'ont guère progressé, mais leurs dirigeants ont déclaré qu'un accord de paix global pourrait être signé d'ici à la fin de l'année. Et en Europe, Pedro Sanchez a été investi aujourd'hui par le Parlement pour un nouveau mandat à la tête du gouvernement espagnol après 4 mois d'impasse politique consécutive aux élections législatives du 23 juillet dernier.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité en Afrique, les bureaux de vote ont fermé à Madagascar, où 11 millions d'inscrits devaient choisir ce jeudi leur prochain président entre 13 candidats, dont le sortant André Rajoel. Le collectif des 10 opposants candidats qui avaient appelé au boycott de ce premier tour de la présidentielle dit ne pas reconnaître ces élections au vu de la participation au plus bas dans l'histoire de la Grande Île. Le point avec Nani Talani.
Ce premier tour de l'élection présidentielle semble avoir peu mobilisé sur fond de vives tensions entre le sortant André Rajoel et 10 candidats de l'opposition qui ont appelé au boycott. Nous ne reconnaissons pas ces élections et la population malgache, dans sa grande majorité, ne les reconnaît pas non plus, a déclaré au nom du collectif l'opposant et candidat Ajo Andrananarivelo lors d'une conférence de presse. Selon les opposants, qui citent de premières estimations transmises par des observateurs internationaux, la participation se situe aux alentours de 20%. Les élections n'ont pas respecté les normes démocratiques et cela a été prouvé par des résultats du taux de participation donnés par les observateurs qui sont au plus bas dans l'histoire électorale de Madagascar, a martelé M. Andrananarivelo. Ses opposants n'ont pas fait campagne et ont appelé les électeurs à boycotter le scrutin. André Rajoel s'est félicité de voir que la population a voté en masse, dénonçant les gens qui ont essayé de semer des troubles et empêcher les élections.
Au Libéria, l'opposant Joseph Boakai conserve une légère avance dans le second tour de l'élection présidentielle avec 50,6% des voix contre 49,4% pour le président George Weah, selon des résultats compilés dans environ 87% des bureaux de vote, a déclaré ce jeudi la commission électorale. Monsieur Boakai et Weah sont arrivés au coude à coude lors du premier tour en octobre, mais en dessous des 50% nécessaires pour obtenir une victoire absolue, ce qui a conduit à un second tour le 14 novembre. Au Niger, le général Abdourahmane Tiani a installé aujourd'hui deux nouveaux organes de la transition créés récemment, la Cour d'État et la Commission de lutte contre la corruption. Les détails avec Claire Morin-Jibou.
Les membres de ces deux institutions ont prêté serment devant le général Tiani, dont c'est la première apparition publique depuis le coup d'État le 26 juillet. Les deux cérémonies retransmises en direct à la télévision se sont déroulées en présence de membres du gouvernement, chefs militaires, traditionnels, religieux et des diplomates étrangers. La Cour d'État, dirigée par le magistrat Abdoudane Galadima, remplace la Cour de cassation et le Conseil d'État, dissous après le coup d'État. La Commission de lutte contre la corruption a quant à elle pour mission le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis et ou détournés. La durée de la transition n'est pas encore connue, mais le général Tiani avait annoncé peu après sa prise de pouvoir qu'elle n'excéderait pas 3 ans. Il a promis la mise en place d'un dialogue national qui doit déterminer la durée.
Au Kenya, le Parlement a approuvé aujourd'hui le déploiement d'un millier de policiers en Haïti, plongés dans le chaos et la violence des gangs. C'est dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU, malgré les critiques dans le pays. Les précisions de John Lydon.
Les 8 l'emportent, a laconiquement déclaré la vice-présidente du Parlement, Gladys Bous-Chollet, après avoir demandé aux élus de se prononcer à voix haute. Début octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert à l'envoi en Haïti d'une mission multinationale menée par le Kenya pour aider la police haïtienne. Haïti est en proie à la violence des gangs qui contrôlent 80% de la capitale Port-au-Prince. Le nombre de crimes graves a atteint des records, selon la représentante de l'ONU dans le pays. Ce déploiement reste toutefois suspendu par la Haute Cour de Nairobi, qui examine un recours déposé par un opposant qui argue que cette mission est inconstitutionnelle. Le président William Ruto a quant à lui affirmé qu'il s'agit d'une mission pour l'humanité dans un pays ravagé, selon lui, par le colonialisme.
Dans la Corne de l'Afrique, au moins 111 personnes, dont 16 enfants, ont péri et 700 000 déplacés dans des inondations après des pluies diluviennes ces dernières semaines, a annoncé l'ONG Save the Children. Depuis fin 2020, la Somalie et certaines parties de l'Éthiopie et du Kenya ont été frappées par la pire sécheresse en 40 ans. Et puis l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud a déclaré aujourd'hui qu'il soutiendrait une motion parlementaire visant à fermer l'ambassade d'Israël à Pretoria. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nathalie Barge.
En Côte d'Ivoire, la Commission des affaires économiques et financières a annoncé l'exonération de la TVA sur les produits alimentaires naturels pour l'exercice 2024. L'exonération concerne le maïs, le sorgho, le riz et le poisson, entre autres produits. Une exonération de droits de douane sera également accordée aux entreprises qui importent des équipements de production d'énergie renouvelable. Au Togo, la deuxième promotion du programme international de master en énergie et hydrogène vert a été lancée cette semaine à l'université de Lomé. 72 étudiants des pays de la CDAO seront formés au Centre de services scientifiques d'Afrique de l'Ouest sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Le programme financé par l'Allemagne existe également en Côte d'Ivoire, au Niger et au Sénégal. L'Éthiopie a salué la reprise en décembre par l'Agence américaine de développement de l'aide alimentaire qui avait été suspendue en juin sur fond d'accusations de détournement au profit des soldats. L'USAID vérifiera si le gouvernement éthiopien tient ses engagements. 20 millions de personnes, soit 16% de la population éthiopienne, dépendent de l'aide alimentaire en raison des conflits et de la sécheresse dans la corne de l'Afrique.
Passe maintenant au sport avec Nanit Talani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le Mali s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, alors que les autorités de la transition veulent mettre à profit deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 de l'équipe nationale de football pour fêter la récente victoire militaire de l'armée à Kidal.
Le Mali s'est effectivement assuré une place en huitième de finale grâce à sa victoire écrasante 5-1 sur le Canada en Indonésie ce jeudi. Par ailleurs, le ministère des Sports indique sur sa page Facebook que le billet sera vendu 1000 francs CFA au lieu de 2000 francs pour les rencontres prévues vendredi à Bamako contre le Tchad et lundi contre la Centrafrique pour la Coupe du Monde 2026, afin de permettre au public sportif malien de fêter la victoire héroïque de l'armée malienne qui a pris mardi aux rebelles Touareg la ville de Kidal en communion avec les aigles, dit le ministère.
Coupe du monde de moins de 17 ans, le Sénégal affronte le Japon demain pour les matchs de phase de groupe.
Déjà qualifiés, les Lionceaux du Sénégal, champions d'Afrique, affrontent le Japon ce vendredi à 16h locale en Indonésie pour le compte du troisième match de la phase de groupe de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Précisons que les Lionceaux ont battu l'Argentine 2-1 lors du premier match dans ce mondial des moins de 17 ans, avant de crucifier la Pologne 4-1 mardi.
La première journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 se poursuit ce jeudi, avec 8 matchs au programme, mais sans le match Maroc-Érythrée, annulé en raison du forfait de l'Érythrée.
Oui, et dans le groupe G, le Botswana affronte le Mozambique à Francistown, alors que l'Algérie reçoit à domicile la Somalie. Dans le groupe A, l'Égypte et Mohamed Salah accueillent les Djibouti. Dans le groupe A, l'Égypte et Mohamed Salah accueillent le Djibouti au Caire. Dans le groupe F, le Burundi joue contre la Gambie à Dar es Salaam en Tanzanie, alors que le Gabon joue contre le Kenya à domicile à Franceville, sans Aubameyang. Dans le groupe C, le Nigeria joue contre le Lesotho à Ouyo. Dans le groupe B, le Togo affronte le Soudan à Benghazi en Libye. Et enfin, dans le groupe D, le Cap-Vert en découpe avec l'Angola à Praia au Cap-Vert.
Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, la Guinée affronte l'Ouganda demain, vendredi, tandis que la Centrafrique en découdra avec les Comores.
Tout à fait. Et la rencontre entre la Guinée et l'Ouganda aura lieu ce vendredi. Donc demain, au stade municipal de Berkane, au Maroc, à 14h locale. Dans ce groupe G, où officient également l'Algérie, le Botswana, le Mozambique et la Somalie, le Sili national est privé du capitaine Naby Keïta, dont le forfait a récemment suscité une polémique, et aussi le vice-capitaine et latéral gauche Issiaga Sylla qui est blessé. Le match entre la Centrafrique et les Comores aura lieu au stade de Moroni aux Comores à 16h locale.
Page des sports VOA Afrique signée Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, dans la région de Bandiagara, dans le centre du pays, en plus de l'insécurité grandissante, une pénurie d'eau touche plusieurs villages. Certains habitants utilisent l'eau des mares pendant l'hivernage. Les femmes rurales sont les plus affectées par ce manque d'eau. De Koro, la correspondance de Tidiani Ouedraogo.
Si l'eau est la source de vie, elle se fait rare ces jours-ci dans plusieurs villages du plateau d'Ogon. Comme ici à Goulfan, un village situé à quelques kilomètres de Koro. Cesser de l'eau est devenu une corvée difficile pour les femmes. Rencontrée devant les grands puits du village, Hawa nous raconte leurs difficultés.
Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'eau dans le puits. Il est vraiment difficile d'avoir de l'eau pour préparer. On n'a pas d'autre solution pour se procurer de l'eau.
Les femmes sont les plus affectées par la pénurie d'eau. Elles sont traditionnellement chargées de la collecte de l'eau et parcourent souvent des kilomètres. Lamata est dans sa cuisine en train de préparer les tout. Elle nous raconte comment elle a pu trouver l'eau.
Je me suis levée à 5 heures du matin. J'ai pu avoir un peu d'eau et là, je prépare pour ceux qui sont au champ.
Dans ces localités, l'accès difficile à l'eau fragilise la résilience des populations déjà affectées par l'insécurité. C'est du fait du jardinage depuis des années. Il dit que le plus obstacle à ces activités est l'eau.
Pas loin que l'année passée, j'ai eu à mettre quelques trentaines de pieds de papaye. Alors, les papayes ont tellement donné qu'il y avait des pieds qui avaient plus de 50 suivis, même 60 suivis. Mais à partir du mois d'avril, comme je n'avais pas assez d'eau, bon, l'eau m'a manqué. Finalement, mes papayes ont commencé à périr et j'ai vraiment perdu en pleine quiète.
Maïmouna est une femme déplacée à Koro. Elle a aussi choisi les jardinages pour sa propre réinsertion socio-économique. Elle veut bien profiter du secteur, mais a besoin d'accéder à un point d'eau supplémentaire dans son jardin.
J'arrose les salades, oignons, un peu de tout. On veut les faire et bien profiter de notre activité si on a un point d'eau supplémentaire.
Afin d'atténuer la souffrance de ces femmes dans ces zones, les autorités de la transition ont pu réaliser des forages dans plusieurs villages. Mais beaucoup de ces ouvrages sont inachevés. Tidiane Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali. Sur 102 FM.
En Guinée, la Chine occupe la première place des principaux fournisseurs. L'Empire du Milieu est également en tête des clients de Conakry. Depuis l'établissement de leur relation en 1959, les deux pays entretiennent une coopération sur plusieurs plans. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
La Chine a ouvert ses portes à la Guinée. Plus de la moitié du total des exportations guinéennes prennent la direction de l'Empire du Milieu. Selon l'Institut national de la statistique, ce géant asiatique fait partie des principaux clients de la Guinée, avec plus de 26% du total des importations.
La Guinée est dans un accord cadre avec la Chine. Elle a signé en 2017, entre dans un schéma mine contre infrastructure pour une valeur de plus de 20 milliards de dollars sur 20 ans. Donc aujourd'hui, les travaux qui sont en cours dans la capitale pour 85 km de voirie urbaine sont un financement chinois dans le cadre de cet accord. Et il y a également la route Koya-Mamoud-Abola qui est financée dans le cadre de cet accord. Il y a d'autres en perspective comme la construction des universités et d'autres endroits. Donc aujourd'hui, on peut dire que parmi tous les partenaires bilatéraux de la Guinée, la Chine est sans doute le pays qui a le financement le plus élevé en Guinée.
Les achats de la Guinée en provenance de la Chine ont doublé en août dernier. Mais la Chine, c'est aussi une présence dans le secteur de la santé, comme ici. L'hôpital sino-guinéen est géré par un personnel mixte.
Chaque mercredi, de 14h à 16h30, on fait la langue chinoise à l'hôpital de l'amitié sur le Yéniké. Et sans compter aussi, parmi nous, il y a beaucoup qui ont fait leur spécialisation, leur étude. En l'un des problèmes aujourd'hui que nous avons avec nos collaborateurs chinois, c'est cette barrière linguistique. Et c'est pas tout le monde chez nous ici qui parle le chinois, et les chinois aussi, ce n'est pas tout le monde qui parle l'anglais. Donc par endroit, il y a une barrière linguistique. C'est ça qui a motivé les premiers directeurs de faire le cours de chinois à l'hôpital ici.
À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, les étudiants accueillent avec joie les cours de mandarin.
Je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous parce que au-delà des autres langues internationales, nous allons aussi apprendre, c'est-à-dire au-delà de la langue française et la langue anglaise, nous avons aussi l'opportunité d'apprendre la langue chinoise. C'est un atout pour nous.
Nous savons tous que c'est une langue internationale et c'est un grand projet pour Gamal d'avoir des étudiants qui étudient la langue chinoise et ça apporte beaucoup d'avantages aussi pour nous. Apprendre la langue chinoise, ça nous aide beaucoup à la recherche de boulot, des partenariats et aussi des projets d'embauche. Tout.
La Guinée possède la plus grande réserve mondiale de bauxite, dont environ 50% sont exploités et exportés par 14 entreprises chinoises. Mais la Chine est également impliquée dans Simandou et trois multinationales du géant asiatique interviennent sur ce plus grand gisement de minerai de fer non exploité au monde, un gisement estimé à 10 milliards de tonnes. Zakaria Camara pour VOA Afrique. Conakry.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le président américain Joe Biden a rencontré son homologue chinois Xi Jinping dans les environs de San Francisco en marge de la réunion de l'APEC. Les deux hommes ont convenu de rétablir les communications militaires, de travailler ensemble pour évaluer les menaces posées par l'intelligence artificielle et de prendre des mesures significatives pour lutter contre le fléau du fentanyl. Le reportage d'Anita Powell depuis Woodside, en Californie, récit Claire Morin-Gibou.
C'est une rencontre historique qui a eu lieu après 12 mois de tensions entre Pékin et Washington. Cette réunion a permis de couvrir un large éventail de questions dont Taïwan, la reprise des communications militaires, les désaccords commerciaux, l'origine des ingrédients du fentanyl en Chine et les questions relatives aux droits de l'homme. M. Biden a déclaré qu'il a été franc sur ces questions difficiles. M. Xi a affirmé que les deux nations sont inextricablement liées.
Pour deux grands pays comme la Chine et les États-Unis, tourner le dos à l'autre n'est pas une option. Il n'est pas réaliste pour une partie de remodeler l'autre. Et le conflit et la confrontation ont d'insupportables conséquences pour les deux parties.
Les leaders des deux nations les plus puissantes du monde ont-ils réussi à aplanir leurs divergences? Monsieur Biden s'est adressé à la presse après la rencontre.
Je me félicite des mesures positives que nous avons prises aujourd'hui. Il est important que le monde voie que nous mettons en œuvre cette approche dans les meilleures traditions de la diplomatie américaine. Nous parlons à nos concurrents et nous parlons simplement, sans détour, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, comme un élément important du maintien de la stabilité mondiale et de la réalisation des objectifs du peuple américain.
Le président américain a aussi réitéré une position qui risque d'irriter Pékin en qualifiant Xi Jinping de dictateur.
Eh bien, écoutez, il est. Je veux dire que c'est un dictateur.
Personne ne s'attendait à des résultats majeurs, mais les deux parties se sont parlé. Le premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim.
This engagement, for example, between President Biden and Xi Jinping, to me.
Cet engagement, par exemple, entre le président Biden et Xi Jinping est pour moi essentiel, car il devrait transmettre le message clair. Nous sommes ici pour pouvoir travailler ensemble et nous devons nous faire confiance pour résoudre des problèmes sérieux. Le climat, les questions en Ukraine ou à Gaza.
Enfin, le succès du sommet des pays de la région Asie-Pacifique ou APEC qui se tient à San Francisco dépend aussi de la bonne entente entre les deux plus grandes économies du monde.
This is the voice of America. Washington, D.C.
La Société américaine de physique a décerné le prix Édouard Boucher 2024 à la Camerounaise Alvin Kamara, professeure de physique à l'Université de Californie. Elle est distinguée pour ses travaux de recherche sur la matière noire qui compose une partie de l'univers. Mohamedou Mfa a joint en Californie la chercheuse camerounaise Alvin Kamara.
Je me sens tellement honorée par l'Association des physiciens en Amérique qui m'a décerné ce prix-là, parce que c'est un prix très prestigieux qui a été créé depuis 1994 et qui honore les physiciens de minorité, soit de race noire, soit des hispaniques ou soit des natifs américains. Donc le prix honore un physicien de minorité qui a excellé dans la recherche et aussi qui a contribué à avancer la diversité en physique. Et aussi quand on lit l'histoire d'Edouard Boucher, pour savoir qui il est, c'était le premier Africain noir à avoir eu son doctorat en physique. C'était en 1876 à l'université de Yale. Bien que le prix m'ait été décerné le 24 octobre de cette année, je vais recevoir le prix physiquement en avril et ça sera à Sacramento.
Vous avez été distingué pour vos travaux de recherche sur ce qu'on appelle la matière noire. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi renvoie cette matière noire?
Quand les astrophysiciens ont commencé à étudier la dynamique des stars et la dynamique des galaxies, ils ont constaté qu'il y avait plus de matière dans l'univers que ce qu'on voit. Donc, cette matière-là qui vient en extrait à la matière visible que nous tous on connaît est appelée matière noire parce qu'elle n'émet pas de lumière ou elle n'interagit pas du tout avec la lumière. Donc on l'appelle matière noire ou matière invisible. Et mon but de recherche, c'est de créer des détecteurs qui vont essayer de découvrir cette matière noire-là pour qu'on puisse fondamentalement répondre qu'est-ce que la matière noire.
Quel serait l'intérêt pour le grand public qu'on en sache un peu plus sur la matière noire? À quoi ça servirait concrètement?
Déjà de un, si on découvre la matière noire, on pourra comprendre mieux comment l'univers a été formé. Vous savez qu'il y a tellement de théories là-dehors qui expliquent l'évolution de l'univers. Mais plus encore, va nous permettre aussi de comprendre comment l'univers va évoluer. Il y a aussi des théories qui disent que peut-être que l'univers va continuer à s'étendre. Il y a d'autres théories qui disent que peut-être que l'univers va se compresser dans des milliards d'années. Et nous tous, donc, nous serons tellement proches qu'on va mourir d'une situation d'extrême chaleur. Pouvoir découvrir cette matière noire-là va nous permettre de valider la théorie du juste milieu. Et plus encore, quand on va découvrir la matière noire, on va maintenant pouvoir la comprendre, l'étudier bien au laboratoire. Et de ces études-là pourront naître les nouvelles technologies.
Alors maintenant que vous avez obtenu la reconnaissance du monde scientifique par rapport à ces travaux de recherche sur la matière noire, quels sont vos projets, quelles sont les prochaines étapes?
L'expérience sur laquelle je suis en train de travailler présentement, elle s'appelle ELSI, Lux Zeppelin en anglais, et cette expérience-là est la plus sensible au monde pour pouvoir découvrir la matière noire. Et elle est l'expérience que le département de l'énergie aux États-Unis a financée complètement, parce que le département de l'énergie croit à la capacité du détecteur qu'on a construit à pouvoir détecter la matière noire. On a conçu notre détecteur, on a pris des données pendant 60 jours et on a pu publier la meilleure sensibilité pour la matière noire dans l'univers. Donc maintenant, on est en train de prendre encore des données pour les presque 5 prochaines années et on va étudier ces données-là, voir si on a trouvé la matière noire ou pas. Si on ne trouve pas la matière noire avec cette expérience primaire-là, c'est un collègue et moi, on est déjà en train de travailler sur un détecteur qu'on mettra sur pied dans 10 ans. Et ce détecteur qu'on mettra sur pied dans 10 ans sera plus sensible que ce détecteur-ci. Et ici à UCLA, je suis en train de construire un laboratoire qui va pouvoir faire certaines recherches sur différents aspects, comment optimiser le détecteur qu'on a construit présentement et comment optimiser le détecteur futur.
La chercheuse camerounaise Alvin Kamara, récipiendaire du prix Édouard Boucher pour ses travaux sur la matière noire composante d'une partie de l'univers. Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro. À la mise en onde, Joël Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.